Que fait la politique à la littérature ? C'est l'heure de Tambouille, la série qui émulsionne engagement et création. De jeunes autrices issues du Master de création littéraire de Paris 8 vous proposent des récits suivis de conversations autour de la ruralité, les transclasses, le tofu, Mbappé, les ellipses, le mur de Planck, les plats préparés, l'accouchement, les archives, les paysannes, le... Dans cet épisode, nous allons écouter « Où allons-nous demain ?» d'Emmanuel Roberti. Le récit de la narratrice propose une investigation de notre rapport aux êtres vivants, à la nature et aux liens qu'entretient cette thématique avec les notions de classe sociale. Quelles alliances peuvent dès lors se créer entre les êtres qui vivent sur les ruines de la nature ?
Où allons-nous demain ? Dans la nature. Pour notre groupe d'amis, la réponse a longtemps été évidente, sans risque et sans problème, inquestionnée. Et puis l'anthropologue Philippe Descola est arrivé avec son livre « Par-delà nature et culture » et il nous a appris que l'idée de nature, c'était une croyance étrange des Occidentaux, un fétiche de cette civilisation qui, justement, à un rapport problématique, conflictuel et destructeur à l'égard du monde vivant qu'ils appellent nature. De telle sorte qu'on ne pouvait plus se dire, pour organiser nos visites, « Demain, on va dans la nature ». Nous étions privés de mots, muets, incapables de formuler les choses les plus simples. Le problème banal de formuler les choses les plus simples. Le problème banal de formuler ensemble « Où va-t-on demain ?» est devenu un bégaiement philosophique. Quelle formule utiliser pour dire une autre manière d'aller dehors ? Comment nommer où nous allons, ces jours où nous partons entre amis, en famille ou seuls, dans la nature ?
Ces quelques phrases constituent l'ouverture de l'ouvrage « Sur la piste animale » de Baptiste Morisot, dans lequel il décrit son rapport aux êtres vivants, aux loups, aux ours, aux panthères des neiges, à tous ces mammifères dominants. Et j'enrage. J'enrage si fort que je décide de revenir vers Anat Singh, une anthropologue américaine, qui se prend de passion pour des histoires amorales de champignons. La colère s'est transformée en quelque chose. Et dans un réflexe de classe, j'en viens presque à remercier Baptiste. Remercier en être redevable, prise jusque dans mes muscles et mes mots dans ce trait particulier. Sois gentille et remercie bien. Remercie la grâce de Dieu, remercie les adultes, remercie les professeurs, puis les architectes, le directeur de thèse. Remercie. On siffle dehors. La porte est lourde et son ouverture mal foutue. Le jour taille une bande verticale. Bientôt, j'aperçois le béton blanchi des quais, puis les herbes hautes des bas-côtés, et au-dessus la ville qui se dort du soir. Nous sommes seulement trois à descendre sur un train d'une dizaine de wagons. Je traîne derrière moi une valise noire, lestée de part et d'autre de cabas plein à craquer. Le long des rails, la friche, la rouille, les bâtisses à l'abandon, le parking flambant neuf, puis en direction du bourg, j'aperçois d'un rapide coup d'œil la maison de l'emploi et le centre médical fraîchement inauguré. Les premiers pas engagés sur ce quai et déjà l'odeur poussiéreuse des blés. Je la sens percer ma peau et elle me traverse bientôt en un frisson. un parfum de paille et de chaleur, du foin dans l'air, puis une odeur chimique, âpre, celle du bitume tiédi, qui râpe mon nez et taille ma cervelle en morceaux. À chaque respiration, de fines particules de moisson embrasent mes narines. J'éternue à plusieurs reprises. Quelques battements de paupières insistants, du sable au coin des yeux, une rumeur de plaine et de chaume, une sève. Mes parents attendent dans la voiture, et quand j'atteins le parking, ma mère sort et vient à ma rencontre. Elle me serre dans ses bras. Mon père récupère mes bagages, les place dans le coffre, puis les deux se postent face à moi, le sourire franc, et me regardent un temps, vérifient qu'ici, dans ce corps qu'ils ont eux-mêmes conçu, rien n'a changé. Je prends la place passager à l'avant. Ma mère monte à l'arrière pour que tu profites, d'on ne sait quoi. Du confort, peut-être, suivant un critère enregistré dans sa jeunesse, car dans leur voiture, le confort est relativement uniforme. Il y a une vie de devoir. Avoir des obligations envers quelqu'un, un père, la famille, et faire ce qui est exigé par on ne sait qui, mais le faire quand même, comme si biologique, programmé génétiquement. En sortant du parking, la voix tombe sur le mur aveugle de mon ancien collège. La voiture longe son pourtour, passe devant les grilles de l'entrée, le grand portail rouillé, identique à mon souvenir, en face duquel les vieilles halles ont été restaurées quelques années plus tôt. À chaque mètre, je colle des visages et de petites scènes déformées par les années, mais ce n'est ni un lieu de souffrance, ni un sujet d'exaltation. J'ai abandonné la plupart de mes souvenirs d'école au fur et à mesure, et les quelques persistants demeurent décolorés, désensibilisés. Et la ville, je la connais par habitude, je lui suis étanche. La Honda traverse un large parking. C'est l'emplacement de la foire annuelle pour Pâques, le point culminant de l'année. On y retrouve les garçons, les grands-parents, les oncles, les tantes nous filent de l'argent de poche que l'on dépense sur les manèges. Se forment ici, en quelques jours, transportés par camion, des amoncellements de tubes métalliques, de revêtements plastiques, de lumières néon, d'ampoules clignotantes. Le divertissement sous format PVC. Il y a cette femme timide, mon amie Céline, et cette pensée qui reviennent. Les citations longues, celles qui permettent de reconstituer l'idée qui nous intéresse, la rassurent. Elle sait qu'un travail approfondi sur le texte et par le texte a été mené. Un engagement dans le travail du chercheur qui se plonge dans la pensée de l'auteur et y demeure, pour la faire sienne et la revisiter. Cette femme en horreur les petites citations dont certains chercheurs larvent leurs textes. Elle trouve cela suspect. Sur la suspicion, elle m'a aussi fait part de son attention aux remerciements à la fin d'un ouvrage. Plus ils sont complets, plus le milieu de pensée de l'auteur la rassure. Ce point venait peut-être de moi, mais nous avons tellement discuté à cette époque-là que, aller savoir de qui exactement venaient les idées de l'autre. La semaine passée, j'ai ouvert « Vivre avec le trouble » de Donna Haraway. À la fin de l'ouvrage, j'ai trouvé 4 pages de remerciements. Le centre urbain coule derrière les vitres. Je vois flotter les lotissements de maisons individuelles et leurs jardins. Celles des années 60, puis 70, les trouées encore vierges dans la trame distendue, et bientôt le crépi saumonné du nouveau millénaire. Ces parallélépipèdes lisses ont grignoté des champs qui, durant mon enfance, annonçaient la fin de la ville et le début de la campagne. Une campagne paysanne et pauvre du sud-ouest de la France, morcelée en lopins de terre minuscules, sans valeur, et dont il est difficile d'extraire quoi que ce soit de rentable. Une maison épaisse en démonstration d'une solidité trapue, stable, comme les fondations familiales. Le confort est massif et pérenne, et il doit avoir sué pour advenir, sans quoi il est usurpé. L'esthétique est un plus, et le dernier des plus, bien éloigné de cette façon de s'inscrire dans le monde qu'elle engendre ailleurs. Ici, on aime ce qui se fait, car après tout, c'est ce qui s'est toujours fait. Un traditionnel neuf a été introduit par les promoteurs et intégré comme convenable au pays. Un pavillon en maçonnerie, crépi projeté, d'un ocre suspect, toit en tuiles canal, cheminée en briques, portail automatique et clôtures opaques, pelouse verte gorgée d'eau, enserrée dans un lotissement. À 14 ans, un élève de ma classe est surpris d'apprendre que mon père, comme le sien, est agriculteur. Il me dit que c'est étrange car je suis bon élève et que je suis bien habillée. Les paysans de mon enfance ne sont pas aussi pauvres qu'ils souhaitent en user. En revanche, un processus de distinction les a relégués au fond de la chaîne. Après eux, il y a les bêtes. Ils sont sales, grossiers, retardés, d'une intelligence équivalente à leur communauté, le bétail, les plantes, les sols, le vivant. Ils sont hors classe. Les procédures de rationalisation et de rentabilisation du vivant ont été intégrées au paysage, au corps des hommes et à ceux des bêtes. Ils ont contaminé le territoire. Mais il reste un facteur risque très élevé, des impondérables, une météo instable et la propagation permanente de virus. Ces êtres résistent décidément fort à la prévision. Ils débordent sans cesse de l'organisation. Et à se croire hors classe, tu t'imagines hors normes, hors histoire, et tu vis sous l'économie de la cellule familiale, sous l'autorité patriarcale et la tradition culturelle de la paysannerie. Tu la crois indépassable, cette vie. Ce qui alimente la colère, ce n'est pas tant les expressions du style « je ne suis pas un paysan, moi » ou « sale paysan » ou « t'es un vrai paysan, toi ». Ce qui ronge, c'est le constat que ces phrases sont prononcées par les paysans eux-mêmes. Les bas-côtés jonchés d'herbes hautes, les graviers sous les pneus crissent au virage, au bas de l'interminable côte à l'issue de laquelle nous serons arrivés. J'ai regardé le pré sur ma droite. De temps en temps, ici, j'ai croisé des chevreuils. Ils fuient déjà. Je reconnais le son du moteur, le ralentissement soudain, puis progressif de la vitesse engagée au dernier tournant, la conduite de mon père. Et mon souvenir est encore plus précis avec les manières abruptes de ma mère, qui freine au dernier moment. Dans quelques mètres, la voiture entamera un virage à droite, faisant front à la murette de pierre, derrière laquelle une maison ramassée, teinte pierre calcaire, se dressera. Le changement de cap se pliera à 180 degrés et la voiture traversera la cour, puis s'enfilera sous les hauts vents de la grange. Mon père ramène les grillades qu'il vient de préparer au cabanon, une ancienne bergerie rénovée, logée au fond du jardin, aménagée en cuisine d'été sous l'impulsion de ma mère, pour ne pas salir la vraie cuisine à l'intérieur. Elle y prépare les plats considérés comme salissants, trop gras, prenant soin de ne pas user ce qui, à l'époque de leur mariage, au début des années 80, et près de Caussade, relève du nec plus ultra, la cuisine intégrée en chaîne massive vernie. C'est un réflexe de pauvre qui consiste à ne pas utiliser les belles choses, à mettre de côté le pain frais, tout en mangeant la miche rassis. Ce même réflexe qui distingue les habits troués, tachés, décolorés, défraîchis, à ne revêtir que pour aller dans les champs, au lac, dans les bois, bien différent des vêtements de l'école, de la messe, du dimanche, des repas de famille, ceux à la mode achetés en masse dans la banlieue toulousaine deux fois l'an. J'observe ma mère au travers des petits carreaux vitrés, en prenant soin de ne pas y poser mes doigts, de ne pas laisser de traces, effrayée que je suis de rajouter à cette femme débordée des tracas de vitrage. J'épie sa silhouette revenir vers la maison par le petit chemin de dalle en béton, au milieu de la pelouse, une poêle à la main. Le visage ferme, décidé, elle descend les trois marches en pierre, accélère sur le gravier de la cour, sa concentration repliée sous son crâne, le corps en pilote automatique, traversant la terrasse de deux vives enjambées. Elle ouvre la porte-fenêtre, les nerfs à vif. Un souvenir cubiste, une collection d'images, de temps éparpillés, qui, mis bout à bout, forme ce petit film dans ma tête. Nous sommes assis avec ma sœur et mon père autour de la table et elle nous sert les tranches de veau. Nous commençons à manger. Elle a déjà nettoyé la poêle. Un coup rapide d'éponge, comme ça c'est fait. Sorti la purée du four micro-ondes, rangé le plan de travail, un couteau et une grande cuillère pour servir, le pain, les fruits, le sel sous la plaque de cuisson. Minou, c'est ainsi qu'elle surnomme mon père, attrape le vin s'il te plaît, allez je m'assois et bon appétit au fait. Elle s'assoit dans un grand soupir. Après une longue matinée à piétiner, passer, repasser, courir d'un bout à l'autre de la maison, sous les hangars, le linge, le ménage, les courses, le bois en hiver, les sorties de bain en été, arrachant les mauvaises herbes au passage et un coup d'eau au géranium. Il y a des êtres qui ne partent pas dans la nature, qui ne partent pas dehors. Il y a majoritairement des êtres qui n'ont pas à partir quelque part, qui sont déjà et toujours dedans. Et qu'ils soient urbains ou ruraux, néo-urbains ou néo-ruraux, humains ou non-humains, qu'importe, ceux qui restent et qui ne se démarquent pas de leur milieu, le font pour tout un tas de raisons, dont celle centrale, de la domination économique, sociale et culturelle de quelques-uns. Je ne connais pas un monde occidental qui entretiendrait une relation homogénéisée à la nature, aussi fantasmagorique soit-elle, ou au dehors. La colère germe au contact de raccourcis et d'une innocence dangereuse. Elle s'installe à la peur de disparaître, de ne jamais se voir exister dans les mondes qui sont décrits. Elle explose quand on lui refuse de prendre à bras le corps les mondes enchevêtrés qui te traversent. Ou, pour filer avec Donna Haraway, qui fait l'économie d'apprendre à répondre de ce que tu vis. Une manière d'être malhabile. Le présupposé urbain à toute pensée cause des dommages irréversibles. Et peut-être est-ce là l'accro. Se fait sentir, comme à la cueillette des champignons dans le sous-bois, une odeur que l'on devine sans arriver à voir un de ces maudits capuchons, une idée bien ancrée selon laquelle la pensée est une forme sociale et urbaine. C'est un biais, une dominante si forte et si peu discutée qu'elle ne pose pas de problème épistémologique. Elle est le présupposé à tout discours sur le monde. Il y a des êtres sociaux, éduqués, qui posent des questions informées, étroitement liées à leur expérience propre, lesquelles expériences sont urbaines et si elles ne le sont pas, elles commencent nécessairement dans un champ urbain pour aller quelque part. Ce soir-là, nous mangeons sous le auvent, dans le prolongement de la cuisine, sur une table en carreaux de ciment et ferronnerie, une lourde masse indéplaçable qui assoit la tablée autour du repas. Je recouvre l'épaisseur des choses sous les doigts, leur profondeur. Le train ayant pris du retard, ma mère a préparé l'entrée et les accompagnements en avance et les sort recouverts de papier aluminium. Rien ne traîne dans cette maison. Il s'agit de ranger et de nettoyer, de se tenir propre, être propre, sentir bon, nettoyer encore et encore cette rumeur de sale paysan. À se demander si des êtres vivants l'habitent. Le rythme et les réflexes à la maison tiennent de la raideur militaire et répondent aux exigences délirantes que ma mère et sa génération se sont fixées. Son éducation dans un milieu d'ouvriers agricoles et d'immigrés italiens a assigné une place de choix aux hommes de la famille et des devoirs épais aux femmes, à savoir le principal, s'occuper des hommes. De ce pli subsiste une dévotion indiscutée, la transformant parfois en hyène ou bien en louve, d'une douceur extrême avec sa marmaille, inquiète et à l'affût du moindre danger, devinant les signes avant-coureurs de l'attaque, protégeant sa meute, l'échine au devant, les lèvres retroussées sur les crocs. Je la sais redoutable lorsque sa famille est en jeu. Et pour cause, elle ne vit qu'à travers sa lignée ou par elle. Son existence entière extériorisée, branchée sur la vie et sa meute. Nous avons vidé une bouteille de rosée. Ma mère nous explique. Enfermée dans un bureau, dans l'institution bancaire qui a autant financé l'agriculture conventionnelle que nos vies quotidiennes, elle ne supporte ni la climatisation ni la lumière artificielle. Les 15 dernières années de sa vie professionnelle ont métamorphosé une activité de conseil et de suivi clientèle en une usine à quotas qui doit vendre des produits, faire du chiffre et voler ses propres clients. Désormais entourée de requins commerciaux, elle regrette l'équipe de rugbymen qui l'entourait à ses débuts. Elle ne souhaite que diminuer ses heures de travail et, dans un de ses fantasmes, se reconvertir en cantinière, mais celle de l'époque, quand elle prenait plaisir à faire manger les enfants, à les servir comme il faut. Elle a déniché une fiction et s'y accroche instinctivement, pour survivre dans ce monde trop serré pour elle, pour nous. J'ai peur, moi aussi, d'être paysan. Je grandis dans un milieu rural où la paysannerie est valorisée, mais par défaut, ou faute de mieux. Nos pères sont nés là, et l'école est suspecte. Elle dévalue le patois, homogénéise les histoires. Les savoirs quotidiens et instinctifs y sont ridiculisés. Et très vite, elle crée le cancre, pas loin du sauvage. Le cancre, il ne lui reste qu'à être paysan. Car paysan, c'est ce qui s'est toujours fait. Il suffit d'être vaillant, d'avoir l'échelle du dehors. Faut pas être plus qu'un couillon. Je grandis entourée d'hommes qui pâlissent à l'approche d'un centre-ville, pris par le tissu urbain comme pris au piège. Puis au lycée, en changeant de milieu social, en rejoignant la grande ville, plus haute et plus dense encore, cette fois, c'est à mon tour d'être à l'étroit, parce que je deviens paysan. Mon accent en premier me désigne. Mes vêtements sont adaptés fissa, mes gestes et mes manières, mes tournures de phrases, mes expressions. Le langage est suspect, il trahit. La situation ne s'arrange pas durant les études supérieures. Il faut réapprendre les mots, les phrases, les gestes. L'accent reste un sujet. Une fois, deux fois, à chaque fois, tout renier, tout accepter, tout transformer. En attendant les grillades avant le repas, j'ai emprunté les trois marches en pierre pour rejoindre la pelouse entre le cabanon et la maison. De là, mes pas ont hésité et j'ai fini par interrompre mon élan. Durant quelques minutes, j'ai observé le jardin, puis la route cantonale peu fréquentée qui fait partie intégrante du domaine familial. Je surplombe depuis ma position les champs de blé moissonnés qui entourent la maison de mes parents. Les balles de paille ne sont pas encore formées, demain peut-être, ou le surlendemain. Il faut qu'ils viennent maintenant, ce feignant. Avant la pluie, le champ doit être déchaumé, précise mon père. Je le surprends en train de piquer des morceaux de viande sur une plancha. Il est concentré sur sa tâche, plongé dans le fumet des grillades, serein, le geste assuré. J'ai été missionné pour lui apporter un plat. Rien ne change ici. Mon père me demande pourquoi je voudrais le contraire. Il est taquin, se met à rire, une main posée sur la hanche, l'autre munie de la pique, les lunettes sur le bout du nez. Parce que moi, je ne suis plus tout à fait la même. Cette dernière phrase, je ne l'ai pas prononcée. Elle est anecdotique. Je veux saisir à nouveau ce qui m'est familier à en crever d'étouffement tellement chaque parcelle ici me sert de près. Et pourtant, ce soir-là, le pays m'apparaît étranger. Le paternel et le paysage ont été élevés ensemble. Il utilise chaque jour ce tronçon de route. C'est quelle fleur, quelle ronce, les orties, sur quel fossé, à quel niveau. Il connaît les variations de climat, la transition des saisons, celle de la luminosité, pour les avoir digérées lentement et en profondeur au fil des ans. Ce lieu, c'est lui, et inversement. Comment peut-il voir qu'ils ont changé ? Mon père a commencé à travailler avec son père très jeune, puis officiellement à 17 ans. Qu'il l'ait choisi ou non, l'école n'a pas eu de place pour lui. Et il a toujours connu la ferme et ses champs. Avant ma naissance, il a élevé des chèvres et des moutons, porté la barbe et le cheveu mi-long. Puis la Grande-Bretagne a terrassé la France sur ce marché. Il m'a expliqué ce fait alors que nous étions cernés de troupeaux sur les routes étroites qui rejoignent les falaises blanches d'Écosse au nord d'Inverness. Il s'est mis à élever des volailles, poulets, pintades. Une vingtaine d'années. Ensuite, l'élevage ne rapportait plus suffisamment. Il fallait investir, s'agrandir ou bien tout arrêter. Décision qu'il s'est résolu à prendre. Il a gardé la ferme familiale, cultivant les champs. Les champs ne s'abandonnent pas. En 3 ans déjà, les ronces envahissent tout, puis les premiers arbustes, les jeunes pousses de chêne. Ensuite, c'est irrécupérable. Disons qu'il faut déployer une sérieuse énergie pour retrouver un sol cultivable. Un champ s'entretient. Mon père désigne du doigt une bête dans le champ. Tu les verrais, quand je suis sur le tracteur, ils me suivent. Depuis quelques années, de nouveaux oiseaux ont fait leur apparition dans le coin. Les hérons garde-bœufs. Nous les avions rencontrés une première fois au niveau des tropiques, à dos de bétail, et désormais, ils s'arriment au tracteur sous nos latitudes. « Ça change », me dit-il. Puis il ajoute « Tu vois bien que ça change ici aussi, c'est le réchauffement climatique. Le pape en parle dans son encyclique, tu devrais la lire. » « Tu sais, papa, c'est mon sujet de recherche, en fait, alors l'encyclique. » Cette dernière phrase non plus, je ne l'ai pas balancée.
Écouter et raconter des histoires qui se bousculent est une méthode. Et pourquoi ne pas oser une déclaration forte et appeler cela une science ? Une science à ajouter au panel de la connaissance. Son objet de recherche est la diversité contaminée. Son unité de base est la rencontre indéterminée. Pour apprendre quoi que ce soit, elle a à revitaliser les arts de l'observation et à inclure l'ethnographie ainsi que l'histoire naturelle. Mais cette science a un problème d'échelle. Toutes ces histoires qui se bousculent ne peuvent être facilement résumées. Les échelles propres à chacune ne s'imbriquent pas sans heurts et attirent bientôt l'attention sur des géographies brisées et des tempos interrompus. Ces interruptions provoquent de nouvelles histoires. La puissance des histoires en cascade fonde cette science.
Anat Singh, encore, toujours, qui revient pour m'aider, pour me soutenir dans ces histoires emmêlées. Voilà un programme d'écriture, une commande. Apprendre à raconter des histoires amorales, lutter contre la mutilation de nos imaginaires et former des cascades. Je rentre à la maison, je reviens sur mes pas, j'opère un saut dans le passé, ou bien peut-être une chute. Les élections régionales de 2015 ont été un vrai désastre. Déjà, l'extrême droite, avec le Front National, enregistre un taux exceptionnel en Tarn-et-Garonne, dans un bastion rural traditionnellement de gauche, ou plutôt modéré. J'ai eu peur, d'abord, puis honte. Une honte poisseuse. Que mon père, ma mère, mes tantes, mes cousins, mes anciens amis fassent partie des électeurs. Je chute donc, avec une obsession précise en tête, une mission. Ils ne peuvent pas, ce que j'ai aimé dans mon enfance, adhérer au Front National comme ça, de manière inéluctable, sans autre forme de soustraction. Ils ne peuvent pas être qu'un pli social. Car si ce pli est incontournable lorsqu'on vient des marges, lorsque socialement on hérite d'un territoire, que reste-t-il de cette vague sur ma propre construction mentale ? Quel choix m'est-il permis d'espérer ? Quel choix leur est-il permis d'espérer ? Et comment un sentiment de culpabilité a-t-il petit à petit pris le dessus sur toute autre forme de distance ? Comment puis-je encore me sentir responsable de ce que ma classe pense, fait, désire ? La honte, je la connais sous toutes ses formes. Elle est matricielle pour les transfuges de classe. La culpabilité, elle, m'emmerde. Elle remet en jeu mon présent, les perspectives nouvelles que j'ai adoptées et qui font la fierté de ceux qui croient en l'extraction sociale. S'ils avaient le sentiment qu'on s'intéresse à eux, peut-être feraient-ils des choix différents. Si nous avons eu des parcours différents, eux et moi, en partant du même endroit, cela ne tient qu'à un delta d'attention. Je dois y croire. C'est à ce delta que je m'attaquerai. Pour cela, il faut chuter vers le sol. Je deviens en quelques secondes, sur une injonction viscérale, spéléologue. J'invente une grotte creusée par une succession de cascades.
On vient d'entendre « Où allons-nous demain ?» d'Emmanuel Roberti. Et maintenant, on va en discuter avec...
Louis
et Nadide.
Et moi, c'est Céline. Moi, je voulais commencer par une première question sur... en fait, dans ce texte, tu développes une critique philosophique à partir de ton histoire personnelle. Et j'avais envie que tu nous racontes comment tu as enchevêtré ces différents éléments.
Oui, alors... ce texte, en fait, il y a plusieurs... C'est lié à mon parcours. C'est des apports philosophiques qu'on entend dans le texte, qui sont lus par Nacera. C'est des auteurs et des philosophes que j'ai pu rencontrer quand je faisais des travaux de recherche en architecture et philosophie. Donc c'est tout un panel qu'on te conseille quand tu travailles sur les notions de territoire, d'écologie, et tu vas rencontrer un certain nombre de philosophes qui par ailleurs sont hyper intéressants. Et il y a toujours eu un décalage, quand j'étais dans ce milieu-là que j'adorais, j'apprenais énormément, mais il y avait quand même un grand décalage à ce que moi j'avais vécu enfant notamment et adolescente. Donc il y a eu ce double moment, il y a eu un moment où j'ai écrit le récit que vous entendez, qui est le récit personnel, qui a été écrit à un moment de ma vie où je devais comprendre en fait d'où je venais et ce que ça impliquait dans les milieux, notamment universitaires. Et puis il y a eu le moment de la recherche universitaire où là, je rencontrais des philosophies qui me parlaient, mais qui en même temps me semblaient déconnectées de certaines réalités. Et ces deux moments, je les ai associés dans le texte que vous venez d'entendre, sur l'idée, en partant de l'exercice que nous demandait Lionel Ruffel d'autothéorie, où donc j'ai décidé pour une fois de se faire rencontrer des apports théoriques que j'avais pu lire ou découvrir dans un certain milieu parisien, urbain, très informé sur les sujets de l'écologie, et puis mon récit personnel d'une enfance donc dans la ruralité française, en Tarn-et-Garonne, c'est un département qui est juste au-dessus de Toulouse et qui est considéré comme un département entre une métropole, la métropole toulousaine, et puis ce qu'on va appeler la diagonale du vide, c'est-à-dire en France, ces territoires ruraux peu peuplés. Et donc en fait, c'est parti de là, c'est de se dire que peut-être cette histoire personnelle, elle pouvait décrire d'autres rapports à la nature et au vivant, et mettre en doute certains présupposés, comme le premier qui est énoncé, la première citation que Lina Serra, c'est donc à partir du texte de Baptiste Morisot, qui me semble démarrer son texte par un présupposé que j'appelle urbain.
Et justement, par rapport à ce décalage dont tu parles, tu en fais aussi une question territoriale. Enfin, tu l'envisages aussi sous le prisme territorial, c'est-à-dire ce lieu de savoir supposé qui est universitaire, où tu découvres toute cette théorie autour du vivant, et puis qui t'apparaît en décalage par rapport à ce que tu as vécu. Ça se passe dans un décalage territorial, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la ville qui parle de la campagne, voire de la nature.
Oui, tout à fait, parce que ça ne veut pas... Alors, toutes ces personnes que je peux citer, dont Baptiste Morisot, ce sont des alliés, c'est-à-dire ce sont des gens qui pensent, qui nous aident à penser, donc il ne faut pas considérer qu'ils sont diamétralement opposés aux pensées que je vais pouvoir développer ou à l'expérience que j'ai eue. En revanche, ce présupposé, il m'intéressait parce qu'il est très rare d'avoir des écrits de la ruralité, venant de la ruralité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'en suffire, parce que c'est hyper intéressant ce que dit par exemple Morisot dans la plupart de ses livres, notamment sur la notion d'observation, sur le rapport au vivant. Mais qu'est-ce que ça fait si on part de la ruralité, et qu'est-ce que ça nous permet de décaler, de partir de ce territoire-là ? Comment ça peut oxygéner ces pensées-là ? C'est-à-dire pour complexifier ce que dit très bien Annette Singh, qui est donc cette anthropologue américaine qui va parler sur les ruines du capitalisme. Qu'est-ce que ça fait si on multiplie les récits pour complexifier ce rapport à la nature ? Parce que quand même, un des présupposés de ces penseurs, c'est qu'il y aurait la nature et un rapport à la nature occidentale. Ce qui n'est pas si faux, en fait. C'est vrai qu'il y a quand même une particularité de l'Occident. Mais dans cet Occident, il y a une multiplicité de rapports à la nature. Et je trouve que c'est un peu invisibilisé, comme beaucoup de sujets, d'ailleurs, qui sont à la marge. Et donc, c'était l'idée de il commence à y en avoir de plus en plus, mais de participer à cet élan qui rajoute des récits à partir de la ruralité.
Moi, quelque chose qui m'a touché dans ton texte, c'est que tu parles de ces penseurs, donc Baptiste Morisot, peut-être aussi Bruno Latour, qu'il y a quand même un phénomène d'invisibilisation en fait des classes rurales. Et est-ce que pour toi justement ces penseurs écologistes, ils pensent un peu hors sol, sans en fait intégrer les classes rurales à leur pensée écologiste? Puis je sais pas, d'ailleurs c'est aussi j'ai l'impression que les classes rurales, bon, c'est un peu des généralités, mais ne soutiennent pas forcément ces pensées ou elles ne sont pas intégrées dedans.
C'est la critique qu'on fait souvent, d'ailleurs, aux pensées de Bruno Latour, sur le fait que c'est une pensée d'une certaine classe intellectuelle. Et lui, d'ailleurs, il va répondre par ça avec son livre de classe, je crois qu'il parle de classe écologique, qui rassemblerait justement, qui traverserait, qui serait transclasse. Avec cette idée que toutes les classes sociales pourraient s'intéresser à l'écologie. Bon, ça reste à questionner. Ce que, pour reprendre ta question, attends, mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, sur l'invisibilisation. En fait, il y a un enjeu politique fort, et c'est ce sur quoi finit mon texte. Ce n'est pas ça reste des gens qui sont représentés, notamment dans la ruralité, mais je trouve que dans le débat national, il y a un enjeu à ne pas les invisibiliser pour pas que ces populations soient récupérées par le Front National, pour pas que ce ne soit que des gens qui parlent de tradition ou d'un rapport au sol très patriarcal, qui s'emparent de ces sujets-là, qui s'emparent de leur imaginaire, et du coup, finalement, les conduisent petit à petit aussi vers le Front National ou vers des extrêmes, on va dire, des extrêmes qui vont revaloriser leur culture, leur manière de manger, de vivre, etc. Tu vois, donc il y avait un enjeu, c'est pas tant de visibiliser, c'est aussi de se ressaisir de ces imaginaires de la ruralité, qu'elles ne soient pas qu'à des gens qui seraient conservateurs. Parce que dans la ruralité, il y a aussi des gens extrêmement conservateurs et qui aiment ça et qui perdurent dans cet imaginaire-là. Mais c'est moi, je refuse de leur laisser. Il y a plein d'imaginaires dans la ruralité. Donc c'était aussi ça, l'intérêt pour moi.
Moi, je voulais revenir aussi sur l'écriture de ton texte, sur le fait que tu croises en fait des éléments de différentes natures. Il y a des citations, des anecdotes, des pensées sur l'architecture. Je me demandais aussi, pour toi, qu'est-ce que ça permettait de rendre ou de rendre compte ou de partager ?
Oui, alors ça, c'est l'objectif de ça. Alors, c'est tout l'intérêt, justement, dans ce texte, d'avoir croisé du récit, qui est plus un travail de création littéraire, et puis des apports donc de philosophes que j'ai pu croiser dans un travail universitaire, où les écritures sont très différentes. Là, ça m'a permis de croiser des registres de pensée et voire des registres de langage qui, a priori, ne sont pas associés. Donc d'avoir à la fois une plus grande liberté et en même temps de pouvoir rendre compte de comment une pensée se fait. C'est-à-dire, dans la vie, comment on pense ? On ne pense pas de manière sectorisée, ou on ne pense pas avec une seule forme de langage. On pense avec tout un tas de registres de langage, d'apports. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, peut traverser nos textes. Et on le verra dans les autres épisodes. Mais il y a cette idée que la juxtaposition de l'ensemble de ces pensées qui nous nourrit en nous, c'est comme ça que se forme une pensée vivante. Et donc, il y avait l'idée de retransmettre ça, d'essayer de retranscrire cette pensée en cours, en train de se former.
Ouais, tu partages même avec nous le fait que comment tu as intégré ces pensées-là. Enfin, j'ai la sensation que les citations, tu nommes aussi ton rapport très subjectif et personnel, même à ses propres pensées, quoi.
Oui, oui, bien sûr. Oui, parce que finalement, l'extrait de la citation de Morisot, je vais m'attarder sur une de ses phrases et donc je l'utilise même de manière littéraire. Parce qu'après, le reste de son livre, il est très fourni et par ailleurs, il y a plein de choses que je partage avec lui. Mais là, je m'intéresse à comment un philosophe, en fait, dans le langage qu'il utilise, il fait, je pense, une grande erreur par rapport à tout ce qu'il peut déployer par ailleurs. Et parce que peut-être il n'a pas, j'émets l'hypothèse, pris en considération que écrire... c'était aussi un positionnement littéraire très fort. Et il dit une erreur pour moi quand il dit « Où allons-nous demain dans la nature ? Quels mots pourrons-nous utiliser quand nous partirons en week-end, etc. ?» En fait, dans la formulation, c'est comme s'il y avait un impensé de sa part, un impensé littéraire, de formuler ça alors même qu'il soutient des pensées qui, a priori, hybrident le parcours des êtres vivants, etc. Donc il y avait cette idée de se dire « Je vais réutiliser des mots de philosophe en tant que littéraire. » Et dire, je vais penser à partir de lui en détournant un petit peu son propos, parce que c'est vrai que son livre développe des choses beaucoup plus complexes que juste cette phrase-là.
Ben moi, j'avais une dernière question sur la question du sol, parce que je sais que c'est aussi présent dans une autre création que tu mènes en ce moment, une création littéraire une chose que tu écris en ce moment. Et voilà, je trouve que c'est un motif, j'ai l'impression qu'il te permet de penser aussi, le motif du sol, de penser d'une autre manière les choses.
Oui, c'est un motif qui est arrivé en thèse, dans les travaux universitaires dont je parlais tout à l'heure, très tôt. Le sol a été utilisé notamment pour ne pas utiliser le mot terre. Alors, c'est pas que le mot terre ne m'intéresse pas, pour parler des enjeux de territoire, mais c'est que le mot sol m'intéresse parce qu'il permet de croiser des échelles de sens et de pensée que peut-être le mot terre ne peut pas. Par exemple, tout ce qui est lié à la propriété ou droit de sol, qui m'intéressait. Et donc, en architecture, en aménagement du territoire, la propriété, le cadastre, c'est quand même un sujet extrêmement important, et notamment en histoire de l'agriculture conventionnelle, le remembrement des terres, c'est lié à un droit du sol, à une division du sol, à une cartographie de ces sols. Donc je trouvais que c'était intéressant d'utiliser ce terme-là. Mais aussi, pendant ces travaux universitaires, j'avais travaillé les questions d'hospitalité et de migration pour questionner les limites territoriales. Et donc là aussi, le droit du sol est quelque chose de très important sur toutes ces thématiques-là, pour repenser le territoire national, pour repenser ce que serait l'habitation, l'installation, la propriété. Avec cette idée que est-ce que la propriété c'est ce qui est défini dans des actes ou est-ce que c'est parce qu'à un moment donné on va s'installer dans un lieu et en prendre soin. Donc ça permettait de repasser tous ces sujets-là. Et puis il y avait aussi un autre angle, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le sol c'est un motif plutôt conservateur qui a souvent été repris dans l'histoire récente du XXe siècle par les pires dictatures et que cette notion-là elle est quand même intéressante avec la même logique que je voulais sur la ruralité, c'est-à-dire on ne va pas la leur laisser. Et on va l'utiliser aussi dans toute sa pluralité de sens, parce que le sol, c'est aussi la pédologie, c'est-à-dire cette science qui s'intéresse au sol. Et quand on s'intéresse au sol, on sait que le sol est un organisme presque vivant, enfin, qu'il a une complexité, ce qui se passe dans le sol a une complexité par rapport au climat. Donc il y avait cette idée de dire non, on va le récupérer nous aussi pour nous, pour nos imaginaires. Il y avait un positionnement un peu fort là-dessus.
Je te remercie beaucoup, Emmanuel, d'avoir joué ce jeu avec nous. Et voilà, et on se retrouve bientôt pour l'épisode suivant.